à tous et bienvenue dans Entreprendre Autrement, l'émission sur l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes. À mes côtés, Jean-Claude Hérault, président de l'UDES et qui a mis ses congés de fin d'année en stand-by pour nous accompagner au cours de l'émission. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors, avant d'aller plus loin dans l'émission, je voulais te proposer de faire un petit point sur la situation de l'Union départementale. Je précise, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que je ne suis plus salarié de l'UDES depuis le 2 décembre de cette année, pour des raisons économiques. Une assemblée générale a été réunie le 13 décembre, et elle était un peu exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Elle est exceptionnelle parce que nous sommes quand même trouvés une cinquantaine de participants et c'est vrai que j'étais un peu inquiet, je ne connaissais pas du tout les réactions que pourraient avoir les délégués par rapport aux difficultés que nous rencontrions parce que en fait nous avions deux solutions, soit nous continuons notre travail d'union départementale que nous réalisons depuis 8 ans, soit nous abandonnions purement et simplement et nous... C'était la fin de cette association, la fin d'une formidable aventure qui a quand même été fortement intéressante et créative d'idées nouvelles. L'ensemble des délégués, il n'y a eu aucune voix discordante, je dirais, ont décidé à l'unanimité de poursuivre l'Union départementale d'économie sociale et solidaire. Donc notre association va être maintenue en 2017. Là, nous avons une réunion de bureau le 5 janvier pour établir la feuille de route pour l'année 2017, mais donc nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin, alors avec des difficultés, comme tu l'as dit, Jean-Joël, tu ne fais plus partie des salariés, tu étais le seul salarié de l'UDES, donc aujourd'hui il n'y a plus de salariés à l'UDES, l'avenir à mon avis passera par certainement le recrutement d'un emploi aidé, si on a l'autorisation de la directe, donc ça pourrait être ça, qui nous permettrait malgré tout d'avoir un soutien administratif afin de poursuivre notre action parce que nous avons plein de projets, on y reviendra sûrement dans l'émission, nous avons plein de projets dans ce département pour faire bouger les choses et pour faire que l'économie sociale et solidaire continue à se développer. Il y a des possibilités de création d'entreprises qui se font jour et donc nous espérons pouvoir continuer à développer comme nous l'avons fait depuis 8 ans l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes.
Alors j'en profite parce que je te fais tenir le crachoir, on a un peu de temps, je vais te poser une question et moi je connais la réponse parce que tu me l'as un peu appris depuis le temps qu'on a travaillé ensemble, mais pourquoi c'est important d'avoir une union départementale aujourd'hui en France et au regard des enjeux actuels ?
Je pense que les créateurs, enfin ceux qui ont créé cette association voulaient faire, c'était de faire en sorte que toutes les familles de l'économie sociale et solidaire puissent travailler ensemble. Le constat, c'est que il y a d'un côté les mutuelles, de l'autre côté le monde associatif qui est très diversifié, et puis troisième côté les coopératives, les fondations. Et tout ce beau monde n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. Et le but de la création de l'union départementale, c'est de faire en sorte que ces quatre familles puissent se connaître, se rencontrer dans un lieu unique et élaborer des projets ensemble. Et on s'aperçoit que finalement, il y a des choses intéressantes. Parce que faire travailler un militant mutualiste avec un militant associatif, ça peut permettre de découvrir un nouveau monde. Moi, en tant que mutualiste, j'ai découvert, par exemple, ce que c'est qu'une société coopérative d'intérêt collectif. Je pense que si nous n'avions pas créé cette UDES il y a quelques années en arrière, on ne serait pas à ce niveau-là. Et dans le département des Hautes-Alpes, le département des Hautes-Alpes d'ailleurs, c'est unique. Pratiquement en France, à part la Bretagne, où ils travaillent beaucoup ensemble, on est quasiment le seul département en France à avoir ce réseau au travers de l'union départementale. Il faut savoir que fin 2016, nous étions à 75 adhérents, ce qui est considérable par rapport à ce que représente, d'autant que nous avons tous ce qu'on appelle les têtes de réseau, qui sont adhérentes à l'UDES. Et donc, de ce fait, on couvre la quasi-totalité des acteurs de l'ESS dans notre département.
Alors pour cette émission de fin d'année, nous avons accepté de jouer le jeu de la rétrospective proposée par l'équipe de la RAM. Nous reviendrons donc sur ces émissions qui ont jalonné 2016 avec des initiatives exemplaires qui font et qui transforment le territoire. L'émission fête sa première année et a permis de mettre en lumière l'économie sociale et solidaire dans ce qu'elle a de plus juste. Énergie, migrants, alimentation ou encore culture, nous avons sélectionné pour vous plusieurs thématiques qui sont en plein dans l'actualité et qui donnent une autre vision que celle des médias de masse. Un autre monde est possible et nous tentons dans cette émission d'en dessiner les contours. Prendre autrement l'émission sur l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes. La question des migrants a jalonné l'actualité en 2016 comme en 2015. Les personnes qui cherchent à fuir leur pays et des situations de vie trop difficiles ont parfois connu des fins tragiques. Combien de naufrages en Méditerranée ou de victimes de conditions de transport indignes ? Plus fondamentalement, il s'agit bien d'un sujet essentiel, notre capacité à accueillir et même notre capacité à vivre ensemble. Pour œuvrer dans cette voie et en suivant les valeurs de l'économie sociale et solidaire, nous vous proposons de réécouter Claire Denisot qui nous expliquait les distinctions entre les différents statuts de demandeurs d'asile, de réfugiés, de sans-papiers et les précisions de Milena Zarev, directrice de France Terre d'Asile à Gap, adhérent majeur de l'UDES. Un extrait qui permet de souligner la nécessité d'user de pédagogie lorsqu'on aborde ce sujet.
C'est vrai qu'on confond souvent différents termes, donc on va peut-être revenir sur la définition du demandeur d'asile, du réfugié et du sans-papiers. Donc, le demandeur d'asile est une personne qui a fui son pays parce qu'il a subi des persécutions ou risque d'en subir et qui est à la recherche d'une protection internationale et dont la demande de statut de réfugié n'a pas encore été accordée. Ainsi, le statut de demandeur d'asile, c'est l'étape avant d'avoir le statut de réfugié. Donc, quelques chiffres. En France, en 2015, le nombre de demandeurs d'asile est chiffré à 79 126, une augmentation de plus de 22% par rapport à l'année précédente. Et sur ces 79 126 000 demandes, ce sont 19 447 statuts de protection qui ont été accordés. Sur la notion de réfugié, donc un réfugié est une personne à qui, au terme de sa procédure de demande d'asile, le statut de réfugié est reconnu par les autorités compétentes. Il existe trois types de protection internationale accordées en France, le statut de réfugié, la protection subsidiaire et le statut d'apatride. Au 31 décembre 2014, on estime à 193 552 personnes qui bénéficient d'une de ces trois protections. Donc 90% ont le statut de réfugié, 9,4% bénéficient de la protection subsidiaire et un peu moins de 1% qui bénéficient du statut d'apatride. Et enfin, le terme de sans-papiers désigne toute personne étrangère vivant en France sans titre de séjour. Il s'apparente à celui de clandestin. Sa régularisation passe par l'obtention d'un titre de séjour par l'administration. Et il est évidemment très difficile d'avoir un nombre exact des personnes en situation irrégulière. On l'estime à peu près à 400 000 en France en 2014. Donc, si vous avez des commentaires ou des précisions à apporter peut-être à ces petites définitions succinctes.
Non, c'est effectivement les catégories qu'on utilise aussi. On fait très souvent ce travail de pédagogie parce que le terme de réfugié est employé souvent à tort pour désigner les personnes migrantes. Donc les personnes migrantes, c'est vraiment le terme le plus générique pour désigner une personne qui a quitté son pays et qui est en route vers un autre. Mais après, on fait bien la distinction entre ces différents statuts administratifs, demandeur d'asile, bénéficiaire d'une protection internationale. Et après, on utilise assez peu, nous, le terme de sans-papiers. On parle de débouté de l'asile. Et il y a la catégorie intermédiaire de personnes en attente de titre de séjour et qui sont encore dans une situation régulière. Mais ce sont bien les distinctions que nous faisons aussi.
Voilà un extrait qui permettait de faire des petites précisions. Jean-Claude, que dire aujourd'hui sur cette action, notamment de France Terre d'Asile, mais même cette problématique sur laquelle les valeurs de l'ESS peuvent nous guider?
Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. C'est toutes ces questions autour de ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, enfin tout ce qui vient d'être rappelé, est complètement d'actualité encore en fin 2016 et en 2017, et je crains qu'en 2018, quand on voit la situation de guerre dans tous ces pays aujourd'hui, on peut se demander ce qui va arriver. Moi ce qui me choque le plus, c'est l'utilisation de ces migrants, ce qu'on appelle les migrants, par des partis politiques extrêmes, je pense à l'extrême droite bien évidemment, qui utilisent cette situation de guerre, de pauvreté, je ne sais pas, je pense que vous avez suivi l'actualité sur Alep, Alep Est, faut bien préciser, puisque on s'aperçoit qu'il y a une partie ouest qui est pas touchée, moins touchée du moins. Mais quand on voit tous ces enfants, ces familles touchées par la pauvreté, par la fuite, où finalement ils savent pas où ils vont réellement, et qu'on utilise à des fins politiques ces situations, je suis scandalisé. Je pense que cette émission que nous avions réalisée durant l'année 2016 est une émission qui est une des plus importantes qu'on a pu faire, parce qu'elle a permis de faire la pédagogie nécessaire auprès des personnes qui ont écouté, les auditrices et les auditeurs, qui ont écouté cette émission, parce que ça leur permet d'y voir un peu plus clair, j'espère, dans leur tête, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un amalgame qui est réalisé par nos grands décideurs, enfin, soi-disant, nos grands décideurs politiques. Et on voit bien que l'économie sociale et solidaire, dans sa façon d'aborder le sujet, de réunir une association, de réunir des intervenants, des décideurs, comme c'était le cas là dans cette émission, permet d'apporter un plus que d'autres ne font pas. Donc cette pédagogie auprès de nos concitoyens.
Oui, mieux comprendre et puis agir. Et dans le même genre, ça va nous permettre de faire la transition. Depuis quelque temps, on a vu apparaître de nouvelles formes de regroupements citoyens et innovants autour de l'énergie, ce secteur qui paraît si important et pourtant sur lequel on aurait du mal à imaginer pouvoir agir à un niveau local. Les centrales villageoises, c'est leur nom, œuvrent à une révolution de l'énergie. Structurées en sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont tu parlais tout à l'heure Jean-Claude, elles regroupent des habitants, des collectivités, des entreprises autour de projets visant à produire de l'énergie. Énergil, dans le Kera, énergie renouvelable du Gapençais ou encore énergie collective à Embrun, ces organisations adhérentes à l'UDES sont l'avenir, non seulement parce qu'elles s'inscrivent dans une logique de transition écologique, mais aussi dans une logique de transition démocratique. Nous recevions en février Robin, Thomas et Jackie de la SIC Énergie Collective à Embrun, qui nous expliquaient comment passer à l'action et comment se situer dans le concret pour agir.
Donc Énergie Collective, c'est un projet qui... L'idée, c'est de se réapproprier l'énergie, la problématique énergétique, localement. Et donc, comment se la réapproprier localement ? Et bien, en créant une structure, justement, une petite structure locale pour collecter de l'épargne avec toutes les personnes du territoire sur lequel on s'inscrit, qui est l'Embrunais-Savinois, pour à la fois investir dans les énergies renouvelables et faire un énorme travail sur les économies d'énergie pour aller vers une transition énergétique réelle sur le territoire.
Alors, Énergie Collective, d'où ça vient à l'origine, en fait ?
Bonjour. Énergie Collective, ça vient à la base d'une association qui s'appelait Essentiel. Donc, il y a une filiation claire du milieu associatif vers le milieu coopératif. Essentiel, qui était une association qui avait plutôt vocation à réfléchir sur différentes thématiques de l'économie sociale et solidaire, et qui, à partir de là, à partir de quelques soirées de réflexion sur les coopératives, sur la finance solidaire, sur l'énergie, etc., on est arrivé à monter ce projet de coopérative autour de l'énergie. C'était un petit peu pour nous une façon de passer de la réflexion à l'action.
Et en quoi ce choix de statut collectif et coopératif fait du sens dans vos parcours respectifs ?
Ben moi personnellement, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est la meilleure manière de passer du militer contre au militer pour, et pas seulement militer, œuvrer concrètement.
Et Robin et Thomas, peut-être, vous, par rapport à vos parcours, c'est un peu pareil que Jackie ?
C'est tout à fait pareil, parce que c'est, comme je le disais, Essentiel, il y a un moment, on était dans la réflexion, on n'était pas forcément dans le contre, mais en tout cas, on n'était pas dans l'action, et clairement, là, c'était passé au concret, et ensemble, quoi.
Oui, exactement pareil, et la problématique énergétique, je pense pour chacun, mais pour moi en particulier, était quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. Et la crise énergétique vers laquelle on va m'inquiétait, donc j'avais besoin d'agir pour.
Agir pour, avoir besoin d'agir, Jean-Claude. Ce témoignage qu'à l'époque on recueillait dans les locaux de la RAM d'ailleurs, nous permet aujourd'hui encore de se dire, eh ben, on peut faire quelque chose, et notamment en matière d'énergie.
Oui, on peut faire quelque chose et on peut surtout rassembler des gens très différents. On l'a vu puisque suite à cette émission, nous avons eu plusieurs rencontres avec Énergie Collective et avec nos amis du Kera, Energil, et on s'est aperçu que finalement ils étaient à la fois très différents, mais ils avaient une démarche commune, c'est-à-dire une démarche pour faire quelque chose, pour innover. Et ce qui est intéressant dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est que c'est la démarche démocratique qui me paraît intéressante, qui permet de rassembler des acteurs très différents. Pourquoi pas des collectivités territoriales ? D'ailleurs, sur le projet des centrales villageoises, nous avons un projet actuellement, même si on n'a pas pu aboutir en 2016, j'espère que ce sera le cas en 2017. Nous avons le projet d'un accord, d'un partenariat avec le département des Hautes-Alpes pour faire en sorte d'aider par l'intermédiaire de notre association, l'UDES, d'aider au développement de ces sociétés coopératives, de ces centrales villageoises. Je pense que en 2017, ça pourrait être l'axe principal de notre travail au niveau de l'UDES. Il vient d'être publié une note politique publique définit les relations possibles entre ESS et département, et on s'aperçoit, contrairement à ce qu'on pouvait penser ou ce que certains disent, qu'il y a finalement la possibilité de mettre au travers des politiques publiques des départements, et en particulier du département de Hautes-Alpes, mettre en avant le développement de l'économie sociale et solidaire, et les centrales villageoises en est un exemple positif.
2016, ça fut aussi également l'année de la mobilisation. Les associations des Hautes-Alpes se sont mobilisées dès le mois de juin face aux difficultés annoncées en matière de financement public. Ce mouvement a pris autour de la nécessité de mieux faire reconnaître le rôle primordial des associations dans un département rural et isolé, comme le sont les Hautes-Alpes. Ces organisations profondément ancrées dans les territoires et les solidarités locales sont aujourd'hui menacées, pour un grand nombre du fait de la reconfiguration politique territoriale et des règles de financement public de plus en plus contraignantes. Un sujet brûlant et toujours d'actualité sur lequel Myriam Jamal du collectif des actions d'utilité sociale et Gérard Ladoux, président du Secours populaire français des Hautes-Alpes, donne ici plus d'explications.
Et du coup, ça serait intéressant que les participants de l'émission d'aujourd'hui reviennent chacun sur les raisons de leur engagement. Qui veut prendre la parole là-dessus peut-être pour dire Myriam ?
Oui, la raison première, c'est qu'un constat, principalement au mois de juin, que de nombreuses associations étaient menacées, le collectif en faisait partie. Il a été important de se retrouver, de lancer un peu une dynamique de solidarité pour mesurer aussi les impacts sur le territoire des Hautes-Alpes que pourront avoir dans l'immédiat ces problèmes financiers. Parce que derrière ces associations, c'est l'implication et le travail de bénévoles, de salariés sur de nombreuses années qui est remis en cause et qui peut être rapidement menacé. Alors il y a une problématique financière, mais il y a aussi une mauvaise prise en compte de ce qu'apportent les associations sur le territoire. Et pour moi, la première raison de participer à cette mobilisation, c'est de mieux faire connaître et comprendre ce que font les associations sur le territoire pour tout un chacun et la dynamique citoyenne aussi que ça porte auprès du grand public, des institutions et des politiques.
D'accord. Gérard, peut-être que...
Oui, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai pris conscience, comme Myriam, parce que effectivement, on a tendance un peu à se refermer sur les problématiques de son association. Et en fait, dès qu'on commence effectivement à avoir des rencontres et autres, on se rend compte que on partage pratiquement tous les mêmes problématiques. Alors, en ce qui me concerne, ce qui m'importe essentiellement, et ça fait vraiment partie de l'objectif de l'UIDES, c'est d'un moment donné de sensibiliser, de fédérer, et de faire en sorte que les associations, à leur tour, tout de même s'engagent par rapport, effectivement, à la défense même. Pour certains, c'est une raison presque vitale. Donc, je pense qu'on est là pour amorcer la pompe, mais par la suite, il convient que le mouvement associatif ait réellement conscience, effectivement, des difficultés de l'ensemble de ce monde-là.
Et ces difficultés, tu en parlais, Myriam, mais du coup, elles ne sont pas que financières, c'est-à-dire qu'on est sur une problématique plus large, peut-être, je ne sais pas, Amandine.
Eh bien, ouais, selon nous, effectivement, on vient là rechercher ou re-questionner le partenariat avec les institutions publiques. Et si certes, un partenariat, on a besoin, les associations, à un moment donné, de moyens matériels ou financiers. Mais avant tout, le partenariat pour nous, c'est un dialogue, c'est de la confiance, une compréhension mutuelle. Et aujourd'hui, tout ça est remis en question. Juste pour citer quelques chiffres que je trouvais intéressants sur cette question financière, aujourd'hui, la subvention publique, pour nous, c'est vraiment synonyme de partenariat, puisque l'association est indépendante, elle a un projet qu'elle propose et... Vu que c'est d'intérêt général et que l'institution publique défend cet intérêt général, on se rencontre à ce moment-là et on est financé. Aujourd'hui, la subvention publique, entre 2005 et 2011, le montant total des subventions publiques dans le budget des associations a baissé de 17%, alors que la commande publique, elle, a augmenté de 73%. Donc clairement, ces chiffres montrent que le partenariat, il évolue. On n'est plus sur du donnant-donnant, on est vraiment sur l'institution publique qui demande aux associations d'aller vers quelque chose.
Voilà. D'accord. Simon, tu voulais rajouter ?
Oui, ben, en fait, je crois que ça va tout à fait dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y avait un lien avec les collectivités, les associations avaient la chance de pouvoir proposer quelque chose que les collectivités ne pouvaient pas mettre en place grâce à des salariés, grâce à des bénévoles. Aujourd'hui, en nous pressant un peu, et on se rend compte qu'on passe énormément de temps sur des dossiers de subvention, et en fait, on n'arrive plus à vraiment faire notre travail. Et donc il y a vraiment ce lien avec les collectivités qui est en train de se casser. Aujourd'hui, je pense que par rapport au regroupement qu'on fait et aux actions qu'on prévoit, je pense qu'on est en train de les prévenir, les collectivités, leur dire attention, là vous êtes vraiment en train de tirer sur la corde, et le jour où on va se réveiller, bah, ça sera peut-être un peu trop tard. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Moi, c'est pour ça qu'on a rejoint aussi le collectif.
Gérard, tu voulais réagir ?
Oui, simplement pour ajouter et avoir du concret. En ce qui nous concerne, par exemple, en matière financière, il faut savoir qu'on injecte au niveau de l'économie ou alpine environ 900 000 euros, c'est-à-dire le bénévolat, ce que nous recevons comme produit alimentaire de la part de la communauté.
Au Secours Populaire, tu veux dire.
Au Secours Populaire, ouais, excusez-moi.
Non, mais parce que
je reprécise.
Ça veut dire que pour une structure déjà,
c'est... Une structure. Le Secours Populaire qui rayonne sur l'ensemble du département, c'est 900 000 euros environ que l'on injecte effectivement dans l'économie. Alors c'est lié effectivement au bénévolat, c'est lié au fait qu'on reçoit aussi des produits de la communauté européenne, c'est lié à toutes les actions qu'on peut faire de collecte, d'animation et autres. Donc... ça représente tout de même une somme non négligeable, parce qu'on présente toujours les associations comme étant des associations dépensières. Or, nous, on apporte effectivement, et on n'est pas les seuls, loin de là, à apporter dans l'économie. Et en contrepartie, l'ensemble des subventions qu'on reçoit de la part de toutes les communautés ou de l'État, ça représente 35 000 euros. Donc c'est ce fameux coefficient multiplicateur qu'il convient de mettre en exergue.
Un extrait dans lequel on entendait également Simon Vitorge de l'association Mobilidée et Amandine Fantoni de l'association ADSCB dans le Briançonnais. Jean-Claude, sur cette mobilisation, un petit mot peut-être ?
Une mobilisation qui a été exceptionnelle dans le département des Hautes-Alpes. Bon, malheureusement, fin 2016, ce qu'on a pu constater, c'est une baisse de militantisme. On a essayé de relancer en décembre, ça a pas vraiment fonctionné. Je pense que toutes ces questions sont complètement d'actualité en 2017, qu'il faudra y revenir. Je serai reçu le 10 janvier par monsieur le préfet des Hautes-Alpes. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger tous les deux sur toutes ces questions. Notamment, on a milité pour la mise en place dans le département de la charte d'engagement réciproque qui a été élaboré au plan national, de façon à ce que dans le monde associatif, eh bien, il y ait un véritable engagement réciproque entre les collectivités territoriales et le monde associatif, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il me semble, moi, que la clé de toutes ces questions, c'est la mise en œuvre d'un nouveau partenariat, un nouveau climat de confiance entre les collectivités territoriales qui aujourd'hui rencontrent leurs propres difficultés avec la mise en œuvre de la loi NOTRe, avec la baisse des subventions de l'État. Donc on est tout à fait conscient des difficultés que rencontrent les collectivités, mais il faudra rebondir rapidement. Parce que les collectivités, je pense notamment aux intercos qui sont en train de fusionner, vont avoir la compétence économique. Et donc, il va falloir très rapidement les rencontrer. C'est la priorité des priorités de 2017, rencontrer les nouveaux présidents de ces EPCI de façon à élaborer en 2017 et les années à venir un projet de développement économique. Et le monde associatif, l'économie sociale et solidaire, nous avons un rôle à jouer pour développer notre département, qui est quand même un département très rural et de montagne, qui est confronté à des problématiques qui vont être, à mon sens, de plus en plus graves avec les changements climatiques. Donc des évolutions économiques à anticiper très rapidement. On a, me semble-t-il, pris beaucoup de retard en la matière. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis que nous avons réalisé cette émission, eh bien, malheureusement, des associations sont disparues ou sont en voie de disparition. Je ne vais pas toutes les citer, parce que je vais en oublier, mais je pense que dernièrement, il y a quand même le comité d'expansion, qui est quand même pas un détail, hein, comité de bassin d'emploi, du Gapensé, comité d'expansion qui a disparu, enfin qui vient de disparaître, c'est très récent. Je pense au centre de ressources de Vennes qui est aujourd'hui en grande difficulté. Mais il y en a d'autres, les conseils de développement qui aujourd'hui sont aussi en difficulté. Il me semble que l'année 2017, ce sera l'année où on y aurait un véritable rebond. Ou alors on risque d'assister, je l'espère pas, mais un véritable plan social dans le monde associatif.
Voilà, bon, c'est sur ces paroles un peu difficiles, un peu douloureuses que nous allons nous quitter. Nous aurions pu également parler culture, nous aurions pu parler santé, nous aurions pu parler insertion ou encore alimentation, mais il fallait faire un choix. Avec cette rétrospective, nous espérons que vous avez pu un peu revivre quelques-uns des bons moments de 2016 avec nous sur cette antenne. Nous vous retrouverons en 2017. D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes. Et puis, à bientôt Jean-Claude.
À bientôt.
Merci à tous.
Au revoir.